Bien, alors on va commencer un midrash. J'ai pas eu le temps de faire des photocopies, mais il y en aura des nédas pour la prochaine fois. En fait, je voulais regarder ce qui se passe lorsque Noah sort de l'arche. Parce qu'en vérité, en fait, c'est quasiment une nouvelle création. Bon, c'est-à-dire qu'on repart avec un seul homme. En fait, on part plutôt avec ses enfants, mais avec une seule famille. Dans les psukim, c'est marqué que Adam Arishon, il a eu Caïn et Evel. Evel est mort, donc, et toute sa descendance a disparu, donc, de la sorte. Caïn, il a ou pas de descendance, ou bien il reste une femme de la descendance de Caïn, qui est la femme de Noé. Et ensuite, il a eu Chet, troisième fils, et il a eu encore ensuite Banim ou Banot. Il a encore eu des fils et des filles. Mais tout ce monde a disparu, sauf la branche Chet qui aboutit à Noach. Et donc, il ne reste que ça d'Adam, et on recommence en quelque sorte. Avec un monde qui est complètement, disons, dans un chaos total, après le déluge, un monde dans lequel on va réinstaller le monde animal. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le monde végétal, ce n'est pas très clair. Bon, tout avait été aussi abîmé. Alors c'est vrai qu'il avait du fourrage probablement dans... Mais qu'est-ce qu'il en est de... Comment on a planté les arbres, avec où il avait des arbres. Alors, à ce point-là, il n'est pas encore clair. Peut-être que ça viendra plus tard. En tout cas, tout recommence. Et je voulais voir un peu ce qu'il en était de ce recommencement. Et justement, ce matin, Herschel m'a posé... Il m'a montré un midrash qui est un peu plus loin que ce avec quoi je veux... commencer, qui lui aussi pose pas mal de problèmes. Alors, le texte de la Torah sur lequel le Midrash porte, c'est la parasha de cette semaine, c'est la montée de Revi, le quatrième. Pasuk dit Vaydaber Elohim el Noach lemo. Elohim parle à Noach. Et lui dit Tse min ha-teva. Sors de l'arche. Ata v'ishtecha, toi, ton épouse, uvanecha unshebanecha itach. Et tes enfants et les femmes de tes enfants avec toi. Et v'kol ha-chaya, sheritcha, et tout le monde animal. Et le pasuk dit, vayetse Noach ubanav. Alors effectivement, ils sont sortis, Noach et ses fils, sa femme et ses brumes, et tout le monde animal. Alors, c'est le midrash dont m'a parlé Herschel ce matin. Il y a un problème dans ces psukim. Parce que l'ordre d'Hachem à Noach, c'était « Sors de la Teva, sors de l'arche, toi et ton épouse, tes fils et leurs épouses. » Et quand il sort lui et ses fils, et sa femme et les épouses de ses fils. Et ils sont sortis, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors que Hachem lui avait dit « Sors sortaient de façon mixte. Ça fait référence évidemment au fait que quand ils étaient dans l'arche, ils n'avaient pas le droit d'avoir des rapports conjugaux. Parce qu'il y a une halakha qui dit que en période de famine, quand le monde souffre, on n'a pas le droit d'avoir des rapports conjugaux. Ce qu'on voit dans Yosef, quand Yosef dit à la réponse en réponse à son père, il dit, il présente ses deux fils, il dit, ce sont mes deux fils que j'ai eus en Égypte, et il dit quand ? Avant la famine. Je les ai conçus avant la famine. Parce que pendant la famine, on n'avait pas le droit d'avoir de relations conjugales. Et là, on a un problème, c'est-à-dire que Noach n'obéit pas. Et en sortant de l'arche, alors que normalement, il devrait reprendre une vie normale avec sa femme et ses fils avec lui, il continue de vivre séparément, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors le Midrash va s'occuper de ça, mais un peu plus tard. Il va y avoir a priori des interprétations contradictoires au premier chef, en tout cas. Ensuite, on nous dit, la première chose que Noach a faite, va y ven Noach Mizbeach, l'Hachem. Noach a construit un Mizbeach pour Hachem. Vous voyez, ici, il y a toujours ce même problème, c'est Elohim qui parle à Noach. Mais quand Noach construit le Mizbeach, il ne construit pas Mizbeach l'Elohim. Il construit un Mizbeach l'Hachem. Dans la Torah, il n'y a jamais de korbanot l'Elohim. Les korbanot et tout ce qui va avec n'est jamais dédié à Elohim ou à un autre nom divin. Toujours dédié au tétragramme. On veut même pas. C'est déjà comme si c'était déjà une tolérance d'approcher des corbanotes, mais on va pas se permettre d'approcher des corbanotes à autre. C'est pas que c'est autre chose, mais à un autre nom que le nom divin par excellence. Les autres noms sont aussi des noms divins. Mais à ces noms divins-là, on n'apporte pas de korbanot. Et donc le mitzvah, l'autel sur lequel il va apporter des korbanot que Noach construit, il est construit l'Hachem et pas l'Elohim.
Est-ce que ce n'est pas en rapport avec le fait que, justement, c'est parce que c'est son cas particulier, dans le sens où il retrouve la nature, et en plus
il ne la retrouve pas, hein, il l'avait sous la main. C'est lui qui l'amène, la nature.
Oui,
les corbanotes qui va approcher.
De l'arche,
oui.
La Teva.
Oui.
La Teva, c'est...
Non, mais ça, c'est pas le même Teva. Ça ne fait pas de la même manière.
Ah, ça ne fait pas de la même manière.
Alors, il apprend. Vaikach Mikola Behema Tora. Et alors Noach a pris de tous les animaux purs. Alors je vous rappelle que dans la Torah, quand on parle d'animaux purs ou d'animaux impurs, ça n'a rien à voir avec la pureté et l'impureté. Les animaux purs, c'est les animaux qu'on a le droit de consommer. Les animaux impurs, ceux qu'on n'a pas le droit de consommer. Pourquoi ça s'appelle pur et impur, c'est un autre sujet. Mais si vous voulez, on aurait pu dire les animaux kshérim et les animaux qui ne sont pas kshérim. La règle générale, c'est qu'un animal, comme toute chose vivante, est toujours pur. Le vivant ne reçoit pas l'impureté. Le seul vivant qui peut devenir impur, c'est l'homme. Un animal n'est jamais impur tant qu'il est vivant. Donc, il a approché de toutes les espèces, Vayal, Olot, Mamisbeach, et il a fait monter des holotes, c'est-à-dire des holocaustes, des corbanotes qui sont entièrement consumés sur ce misbère. Et à ce moment-là, Vayarach, Hachem, et Dreach Anichoach, Hachem a, on va dire, respiré. Il a respiré cette odeur agréable. Vayomer Hachem el Libo, Hachem a dit à son cœur, il s'est dit, mais il ne l'a pas dit aux hommes, Lo osif le kalel od et ha adama ba'avur ha adam. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Ki yitzer lev ha adam ra min nevurav, parce que le penchant de l'homme est depuis sa jeunesse vers le mal. Ve lo osif od le akot et kol chay, kasher asiti, je ne frapperai plus tout le vivant comme je l'ai fait. Le monde va tourner comme d'ordinaire, enfin comme régulièrement, sans un coup en quelque sorte. Et le passage continue et il dit Vaivarech Elohim et Noach. Elohim a béni Noach et Banav et ses fils. Vayomer lahem kruvu milut haaretz. Et il leur a dit, croissez, multipliez-vous, et remplissez la terre. Et que votre crainte soit sûre, s'impose à toute la création. Et je vous permettrai de... Et à ce moment-là, il leur permet de manger de la viande. Vous pouvez manger de la viande. Jusque-là, ils étaient végétariens. Et puisque maintenant on permet de la viande, alors on dit mais par contre, vous avez bien le droit de tuer les animaux pour les manger, vous n'avez pas le droit de vous tuer vous-même. Les hommes n'ont pas le droit de se tuer, et s'ils se tuaient, je demanderai des comptes, dit Hachem, et je demanderai des comptes aussi de tous les animaux qui tueraient, aux animaux qui tueraient les hommes. Parce que les commentateurs disent que quand, avant le déluge, les hommes se sont tellement fourvoyés qu'il n'y avait plus de différence entre hommes et animaux, et les animaux mangeaient les hommes. Et ils avaient le droit, puisque les hommes s'étaient quasiment tellement disqualifiés que les animaux avaient eu le droit. Et maintenant, on dit, c'est terminé, maintenant, on recommence, les animaux n'ont plus le droit, c'est pas symétrique. On peut manger les animaux, mais les animaux ne peuvent pas manger les hommes. L'interdit de verser le sang, parce que l'homme, quelle est la différence, puisque l'homme est aussi une forme animale, si on veut, parce que vous dites qui Betzelem Elohim a saint Adam. Puisque Elohim a fait l'homme à son image, alors il a un statut à part. Il n'y a pas de symétrie. Avant, c'était vu par disqualification, il y avait une symétrie qui s'était installée. Et il répète, Ve'atem pour vous, shirtsu ba'aretz urvuva. Et vous, donc fructifiez, multipliez-vous, pullulez littéralement sur la terre et remplissez-la. Alors on dit que, il vient de le dire que pour vous. On dit la première fois c'est une bracha, la deuxième fois c'est un ordre. Et Hachem annonce à Noach l'alliance avec le signe de l'alliance qui est l'arc-en-ciel. Ça, c'est les psukim sur lesquels le Midrash va travailler. Alors Elohim parle à... Donc c'est la... En fait, c'est la parasha 34 du Midrash Rabbah de Réchit. Donc, on commence sur le verset. Vaïdaber Elohim el Noach les morts, tse minateva. Sort de l'arche. Et le Midrash commence par commenter un pasouk de Tehilim à la fin du chapitre de 142 de Tehilim. David HaMelech dit Otsia mimasger nafshi leodot et shemecha ki yachtiru tzadikim ki tigmol alay. Pasouk dans Tehilim dit « Fais sortir mon âme de prison. Le hodot et shemecha, pour que je loue ton nom. Les tzadikim, parce que tu m'auras fait cela, parce que tu m'auras fait ce bien en quelque sorte, les tzadikim te couronneront alors ça c'est ce que dit David HaMelech. Alors le Midrash est Doresh, il va interpréter ce verset en rapport avec la parasha, avec le texte de la parashat Noach. Otsia mimasger nafshi, fais sortir de prison mon âme. C'est Noach qui est sagur bateva yud bet chodesh, qui était enfermé dans l'arche pendant 12 mois. Le hodot et shemecha, pour louer ton nom. La tête hodaya lishmecha, pour effectivement pour que je loue ton nom. Ici c'est pas très clair qu'est-ce que le Midrash a ajouté. Le texte disait le hodot et shemecha, et le Midrash traduit la tête hodaya lishmecha. Je vais essayer de dire quelque chose tout de suite. Biyartiru tzadikim, par moi, et tzadikim te couronneront. C'est-à-dire, itkalelun bi tzadikim, kitigmol alay. Ils seront inclus en moi quasiment les tzadikim lorsque tu me fais du bien. Shegamalta alai ve'amarta li tse minatseva. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi c'est les tzadikim qui vont couronner? Parce qu'en quelque sorte, je suis porteur de tous les tzadikim à venir. En vérité, les porteurs du reste de toute l'humanité. En particulier des tzadikim. Le bien que tu m'as fait, c'est tu m'as fait sortir de l'arche. Qu'est-ce que dit ce midrash, ce morceau de midrash ici? Nous, on aurait pu dire que le bien qu'Hachem lui a fait, c'est qu'il l'a sauvé du déluge. Il dit la louange est pour le fait que tu m'as fait sortir de l'arche. Il y a plus que tu m'as sauvé la vie. Sortir de l'arche, c'est en quoi est-ce que c'est ça le... Quelque part, les Chachamim m'entendent dans ce midrash dire que c'est vrai qu'il a été sauvé, Noach, mais il était en prison. Il n'a pas vécu dans l'arche en situation de sauvetage. Il n'est pas dans un bateau de sauvetage. Il ne se voit pas dans un bateau de sauvetage. Il se voit dans une prison. Et quand on ouvre la porte de la prison, c'est ça qui justifie les louanges. Il y a donc une... il y a, pendant ce, bonsoir, pendant cette situation où nous on mettrait l'accent sur le fait que il y a le déluge et lui il échappe à ce déluge, mais lui il le ressent comme une prison. Il est en prison et ce qu'il demande à Hachem, c'est fais-moi sortir d'ici. C'est un peu compliqué de savoir ce qu'il en est. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est ça qui est le plus important, en quelque sorte. La louange, elle viendra non pas parce que tu m'as sauvé, mais parce que tu m'as fait sortir de la prison en question. C'est une prison. Une prison, c'est un lieu dont on ne peut pas sortir.
Oui, mais on peut dire la même chose de la terre. Hein. On peut dire la même chose. C'est qu'il avait tout ce qu'il fallait sur l'arche. Ça aurait pu être comme un Gethsémani. C'est un
putain. Il avait un énorme boulot, hein. Il était en charge de faire de donner à manger à tous à toute cette arche de Noé, comme on dit.
Ça aurait été un sursis,
en fait, s'il non, mais c'est clair que ça ne vaut rien. À la limite, s'il a été sauvé et qu'il va passer le reste de sa vie dans l'arche, peut-être que ça vaut pas la peine. Ouais, c'est, on peut se demander, n'est-ce pas ? Il est sauvé, mais il passe sa vie dans l'arche. Non, il savait pas. A priori, s'il est dans l'arche, c'est pour échapper à l'eau quand il n'y a plus d'eau, il va pouvoir sortir. Ce qui est intéressant, c'est que quand il sort de l'arche, il sort après avoir vérifié qu'on peut sortir. Il a envoyé la colombe, il a envoyé le corbeau, etc. Donc il sait que c'est sec, suffisamment sec pour sortir. Mais il ne peut pas sortir sans l'ordre d'Hachem. C'est, il faut un ordre. Il n'a qu'à pousser la porte. Il faut l'ordre. C'est une prison, il ne peut pas sortir, il n'a pas le droit de sortir par lui-même. Bien qu'il se soit maintenant convaincu qu'il peut sortir du point de vue du monde extérieur, il peut maintenant aller dans ce monde extérieur, mais il ne peut pas sortir sans l'ordre d'Hachem. Donc lui, il vit ça comme une prison. Et il dit, les tzadikim, ils vont tresser des couronnes, en quelque sorte. Ils vont te couronner, tresser des couronnes, et tu me fais sortir. En moi. Le fait que tu me fais sortir. On aurait pu imaginer, effectivement, que... Voilà, il peut... que lui, à la limite, il était un tzaddik suffisamment tzaddik pour être sauvé. Et peut-être que lui, il va finir sa vie dans l'arche, et peut-être ses enfants sortiront après. Mais lui, il faut imaginer que lui doit finir sa vie dans l'arche. Peut-être que lui et ses enfants, mais qu'à ce moment-là, ils vont devoir avoir des enfants dans l'arche, et que c'est la nouvelle génération qui... La génération qui n'a pas connu du tout. Il y aurait... Le problème, c'est qu'on va avoir... On n'aurait pas d'antédiluvien, quoi, si vous voulez, sur Terre. Très bien, puis imaginez qu'il n'y en ait pas. De même qu'il n'y a pas de... Il n'y a personne, sauf Caleb et Joshua, de l'ancienne génération qui entre en Eretz Israël. Seule la nouvelle génération, celle qui n'était pas adulte à la sortie d'Égypte, va pouvoir entrer. Là, en l'occurrence, si on regarde de ce point de vue-là, alors les fils pourraient entrer, parce que la raison pour laquelle les enfants de Noé ont été sauvés, c'est qu'ils sont sauvés parce qu'ils n'ont pas encore l'âge d'être jugés pour eux-mêmes. Ils sont sauvés parce que leur père est sauvé. Ils n'ont pas 100 ans et donc à ce moment-là, c'était ça l'âge. Et donc, ils ne sont pas sauvés pour eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils ont des mérites qui font qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés en tant que fils de leur père. Et maintenant, qu'a priori, ils doivent avoir des enfants, on pourrait dire, la preuve qu'ils doivent avoir des enfants, c'est que les femmes aussi sont sauvées. Bon, premièrement, on va voir que Noé, lui, n'aura pas d'autres enfants, mais ça c'est à cause de Canaan. Mais peut-être que les femmes sont sauvées pour qu'ils vivent une vie normale, mais pas pour avoir des enfants. Une femme, ça ne sert pas seulement à avoir des enfants. On peut imaginer que sa femme aussi est sauvée, mais pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des enfants. Peut-être, ou les fils vont avoir des enfants en dehors de la Teva, ou les fils parlent de leurs enfants. Sur le modèle d'Eretz Israël, c'est un nouveau monde. C'est un monde dans lequel n'entre pas, personne viendra de l'ancien monde. C'est une grande différence. C'est-à-dire, si Noé sort, alors un adulte de l'ancien monde se retrouve dans le nouveau. Maintenant, ils sont majeurs. Oui, c'était juste avant leur maturité. Avant ta bar mitzvah, tu n'étais pas bar mitzvah, ça s'est joué en un an.
Et tous les enfants.
Oui. Ils sont nés dans un genre de poche. Et...
Vous avez des enfants incestueux là.
Ah non ?
Vous avez pensé qui c'est ces enfants ?
Non, des sœurs.
Ils ont plusieurs sœurs.
Provocation là. Non, rien. On va pas faire de commentaires. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on voit. En mentionnant ce qui m'est arrivé, les tzadikim te tresseront des couronnes. Sous-entendu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a ouvert la porte de l'arche. Le Midrash continue, il dit Hachem tzadik ifran verasha veorev hamas sananafsho. Toujours dans ce dans Teilim, mais pas dans le même chapitre. Hachem met le juste à l'épreuve et le méchant et celui qui aime le vol, sananafsho, son âme le hait. Les hait. Donc, on est tout de suite sur le problème de l'épreuve. Alors, Amar Rabbi Yonatan, Yonatan dit היוצר הזה, ce potier, אינו בודק קנקנים מרועים, שאינו מקיש עליהם אחת עד שיפוקעת. Le potier, il sait très bien que les cruches qu'il a fabriquées, qui sont pas très bonnes, il les frappe pas pour voir comment elles résonnent. Il sait très bien que suivant comment il les frappe, elles vont tomber en poussière. Donc il les met pas du tout à l'épreuve. Il va frapper seulement sur celles dont il pense qu'elles sont très bonnes, pour voir combien elles sont bonnes. Comment ça résonne. Mahou Bodek, qu'est-ce qu'il examine? Il examine Kankanim Yafim. Il examine les bonnes cruches. Shafilou, Makish Alav, Kamape Amim, et non Nishba. Celles qui, effectivement, tiennent le coup, même s'il frappe plusieurs fois sur. Car, de la même manière, en Akadosh Baruch Hu menace elai ta tzadikim. Hashem ne met à l'épreuve que les tzadikim. Amar Rav Yossi, apishtani haze, Rav Yossi lui prend pas l'exemple du potier, mais il prend l'exemple d'un. Comment ça s'appelle? Pishtani. Pishtan, c'est le lin. Je sais pas comment. Ici, ils ont traduit par le ligné. On fait confiance, on va dire qu'on a le droit de traduire. C'est celui qui s'occupe du lin.
Il se rend du lin.
Bah, il tisse pas.
Ah bon,
fabrique du lin. A Pishtani, azé, besha, shu, yodea, shu, pishtan, shelo, yafé. Quand il sait que son lin est de bonne qualité, kol, shu, kot, sha, imishtabachat. Plus il frappe, mieux c'est. Elle améliore. Et ce colchou makishalea, c'est mishtamenet. Il a de meilleure qualité. Le chache ou yodea, c'est pishtanoraa. Lorsqu'il sait que le lin n'est pas de bonne qualité, mais enom aspik la kishalea, c'est hippocat. Il sait très bien que s'il frappait, ça éclaterait, ça s'abîmerait. Donc il ne le fait pas. Donc il fait la même. Rabbi aussi, a priori, il donne, semble-t-il, un machal très analogue. Mais l'un parle d'un potier, l'autre parle d'un ligné. Peut-être on arrivera à dire pourquoi il y a lieu d'avoir deux exemples. Car en la kadosh bochou menace elai ta tzadikim, shnema Hashem tzadik ifran, comme dit David Amel, Hashem éprouve le tzadik. Rabbi Elazar omer, amar. Non, il faut comparer plutôt ça à la balabait. C'est un balabait. Shayulo, il avait jeté parot. Il a deux vaches. Une qui est forte et une qui est faible. Sur laquelle est-ce qu'il va poser le joug? Bien sûr, c'est le joug, il va le poser sur celle qui est forte. Car en la kadosh baruch hu menace el ha tzadik, shenemar Hashem tzadik ifran. D'avoir acher, Hashem tzadik ifran, ze noach, shenemar tse minateva. Alors, le deuxième, troisième question, troisième problème, c'est Rabbi Lazar, il parle du joug sur la vache la plus forte. Et puis, en passant, tout à la fin du paragraphe, le Midrash dit non, le verset Hachem Tzadik Ifran, ça ne vient pas nous dire une généralité que Hachem éprouve les gens qui sont tzadik. Ça vient nous dire que il a éprouvé Noach. Comment est-ce qu'il l'a éprouvé? C'est Minateva. Sort de l'arche.
Mais avant qu'il s'est embarqué, il était déjà tzadik.
Oui, oui.
Le Dorda.
Tout à fait. Donc, visiblement, ici, pour l'instant, nous ne regardons pas les trois cas. Mais on dit, il ne s'agit pas d'une généralité. David HaMelech, lorsque il dit ce verset Hachem Tzadik Ifran, ce Davar Acher, je ne sais pas qui c'est, celui qui parle ici dans le Midrash, dit il s'agit de Noach. Et Hachem a mis Noach à l'épreuve. Comment? En lui disant sors de l'arche. Alors un des grands commentateurs du Midrash, Marzou, il dit Shelo yatsa min hateva vaf le'achar shecharvu hamayim. La mise à l'épreuve, c'était justement la réussite, ça a été de rester dans l'arche, bien qu'il ait vu que du point de vue de l'eau, il pourrait sortir. Le saval isurim bateva de masguer. Et c'était une prison, cette teva. Et a priori, on sort dès qu'on peut. Ad et ba. דברו שאמר לו צא מן התיבה אחר שהתפלל עד שנעני. Il n'est pas sorti tant que l'ordre ne l'est pas venu, et cet ordre est venu après qu'il ait prié, comme on a vu, Hachem fais-moi sortir de cette prison. Donc on commence à voir un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous diriez, vous?
C'est lui qui demande à Hachem de sortir de cette prison.
Oui.
Et on dit aussi, mais Hachem l'a éprouvé lorsqu'il est sorti.
Il l'a éprouvé en lui disant c'est Minateva, c'est-à-dire en ne le disant pas avant, quoi, en lui donnant l'ordre. C'est-à-dire en fait, en. Alors, bon, si je comprends bien ce que tu dis, effectivement, il y a un peu d'ambiguïté dans cette affaire. Parce que, disons, l'épreuve c'était de ne pas sortir quand lui pensait qu'il pouvait sortir. L'épreuve consistait à se considérer comme étant dans la main d'Hachem et à ne s'autoriser à sortir que quand Hachem leur a dit de sortir. Mais il n'est pas resté passif. Il a compris qu'il fallait demander. C'est comme ça que fonctionne le monde. Le monde, il fonctionne avec la parole d'Hachem. Et quant à l'homme, l'homme doit demander. Il doit demander à Hachem. Tu veux quelque chose, tu penses que quelque chose est bien, doit avoir lieu, demande. Demande à Hachem. Ben non, mais Jonas, justement, il n'a rien demandé. Il a mis les voiles.
Quand il était dans la
mer. Ah ouais, là, il Donc, le problème, c'est... Lui, il a donc attendu, il a prié, jusqu'à ce qu'Hachem lui donne l'ordre de sortir, donc lui donne son ticket de délivrance, en fait. Et Hachem l'a éprouvé parce qu'il était tzaddik. En d'autres termes, s'il n'avait pas été suffisamment tzaddik, il aurait peut-être été suffisamment tzaddik pour être sauvé, mais Hachem ne l'aurait pas éprouvé avec ça. Une épreuve, c'est toujours pour que quelqu'un grandisse de cette épreuve. On met quelqu'un à l'épreuve, un tzaddik à l'épreuve, c'est pourquoi ? C'est pour qu'il grandisse, qu'il s'en trouve plus élevé. Donc évidemment, ce qu'on doit comprendre, c'est en quoi est-ce que il va se trouver plus élevé du fait qu'il est éprouvé par Hachem. Alors le début du Midrash nous montre ce qu'il en est. Le début du Midrash nous dit Hachem n'éprouve que celui dont il sait qu'il est tzaddik. Mais à la limite, ce qui se passe, c'est que on a un peu l'impression que c'est Noach lui-même qui a inventé l'épreuve. C'est lui, en ne sortant pas, qui fabrique l'épreuve. Ça veut dire Hachem l'a éprouvé. C'est pas en lui disant sort, puisque on vient d'expliquer que l'épreuve c'était de ne pas sortir sans ordre. Là, il pouvait pas sortir, il y avait de l'eau. Non, mais c'est pas comme ça que c'est présenté. Vous avez raison, mais c'est ce qu'on a dit au début. On a l'impression que l'épreuve c'était la prison. Les 12 mois, c'est aussi le fait qu'il a été sauvé, etc. Tout le problème, c'était ces 12 mois. Et on dit, non, c'est pas les 12 mois, c'est les minutes ou les jours, je sais pas ce que c'était, de la sortie elle-même.
Mais il y a différentes sortes de
preuves. Un instant.
Thank you.
C'est-à-dire qu'il a eu conscience, qu'il a pris conscience, qu'il a failli. Et qu'il méritait, en fait, qu'il fallait une chouva.
Il fallait
que
une nouvelle
affaire. Une nouvelle chouva. Il a compris finalement sa son limite. Tardivement, mais il a compris.
Que tu dis, Franck? Peut-être, avant de continuer, peut-être tu élabores un peu cette histoire des deux notions d'ordre pour que ce soit bien clair. D'accord avec les deux, donc.
L'ordre, c'est mitzvah ?
Attendez. Oui, ça, c'est la mitzvah. Je suis pas sûr.
Mitzvah ?
Je suis pas sûr. Donc ici on a affaire à un, justement, ce que je vous dis, que je ne suis pas sûr que cet ordre là c'est pas ce qu'on appelle un ordre, parce que c'est un conseil appuyé quoi.
Et lorsqu'il était question de construire, quel ordre il a reçu?
L'ordre de construire,
ben, il ne connaissait que ça.
Ça veut dire
de par son expérience vécue, il pouvait se référer à quelque chose qu'il a connu au niveau de l'expérimental. Donc il attendait une répétition de la même chose. On lui a dit construit, il fallait finalement il s'est comporté uniquement en celui qui exécute l'ordre et qui n'est pas et qui ne le bat pas, qui ne cherche pas à comprendre, à entrer à.
Non, ça, je suis pas d'accord.
Enfin, il s'est comporté uniquement à celui qu'en exécutant d'homme.
Non.
Donc c'est un homme qui obéit à l'homme.
Non,
c'est pas. Il voulait un autre homme.
Non. Je pense pas. Bon, ce qui va pas tellement dans le sens de ce que disait Thierry, qui est, c'est une solution qui serait très bonne, c'est ce qui est dit avant sur cette histoire du potier, du linier et du joug. Ça va pas tellement dans le sens que vous disiez, parce que ces trois exemples montrent bien que l'épreuve, elle ne vient pas parce qu'il manque quelque chose. La vérité, c'est qu'il y a deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve qui vient pour corriger. Le Rambam dit, tu fais tshuva, mais il faut aussi éventuellement des issurim. Il y a les souffrances, des ennuis, des souffrances, etc. Cette épreuve-là, elle vient pour réparer. Mais justement, tout le travail du Midrash, ça a été de nous montrer ici que ces épreuves ne viennent pas du tout pour réparer. Il n'y a d'épreuve que tout est déjà joué, en quelque sorte. Le potier, il sait, le linier sait, et le paysan qui met sur maison, ils savent très bien. L'épreuve, c'est même pas une... On peut se demander à quoi elle sert, cette épreuve. Pourquoi on appelle ça une épreuve ? Ça sert à rien, il sait que il sait très bien que ce pot, cette jarre ou cette cruche est très bonne. Il sait que celle-là est mauvaise, donc celle-là, il ne la touche pas. Celle-là, il tape. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Un instant. Avant d'aller plus loin, je veux d'abord arriver jusque-là. Et même chose, le ligné, je ne vais pas taper sur le lin. Celui-là, il ne vaut rien du tout. Si je tape deux fois, je n'aurai plus rien. Mais l'autre, je sais. Donc il tape. Là, il le bonifie. Ça veut dire que dans le cas du lin, par opposition au cas des cruches, taper sur une cruche, ça ne la bonifie pas. Il se fait seulement plaisir en se disant, elle est sûrement c'est une super bonne cruche, jusqu'à ce qu'il la casse, parce qu'il frappe, et puis il se dit, c'est vrai, ça ne casse pas, c'est super. Mais ça n'arrange pas. Tandis que le lin qui est bon, qui est déjà très bon, il devient encore meilleur du fait qu'il le frappe. Donc il y a une épreuve ici qui bonifie. Et maintenant, le troisième, lui, il a l'air de dire autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du joug par opposition aux deux autres ?
Il y a un choix.
Oui, mais là-bas aussi c'est un choix. Il sait très bien quelle est la vache qui supporte le joug, celle qui ne le supporte pas. À quoi ça sert de mettre le joug ? Oui, il va y avoir du travail, mais ça ne bonifie pas la vache que de lui mettre un joug a priori. Et d'un autre côté, donc, du point de vue de la comparaison avec le lin, cette épreuve-là, si on considère le joug comme une mise à l'épreuve, ça ne la bonifie pas, la vache. Mais qu'est-ce que ça fait ? Vous avez dit, c'est utile, ça produit du travail. En quoi ? Est-ce que ça la qualifie vraiment ? Il savait qu'elle était qualifiée pour ? Le linge, quand il en a marre, il craque. Hein.
Mais dans les trois exemples, curieusement, c'est pas la cruche qui est testée.
Quand
Je veux dire que c'est le potier qui se fait plaisir.
Oui, dans la cruche. Laissez la cruche de côté. Maintenant, je veux savoir ce qu'il en est du joug. On a dit, le potier se fait plaisir d'avoir une cruche. Oui, mais quelle est la progression du troisième ?
Ce travail, ce produit, c'est ce que ça va produire.
trouvé une vache capable.
La, quand sa cruche elle est bonne,
parce que s'il n'y avait pas une qui était plus forte, si. Il n'aurait pas pu la bourrer.
Voilà. Sa cruche, oui, elle va aussi faire de le travail, non? Oui, ça veut dire.
Elle va être utile.
Ah non?
Elle va être...
Elle va jouer son rôle. Elle va jouer son rôle. Ah bah une vache non plus, elle ne porte pas la tour Eiffel. Hein.
Oui, mais elle rentre dans un processus de production. Donc plus, la, plus si on peut dire, la, la, celui qui prend le joug prend sur lui et fait un travail, plus il va produire quelque chose.
Il est confirmé. Ça s'appelle confirmé.
Mais là, c'est visible avec la vache. Donc ça se voit alors que pour le non, alors que pour le pour la cruche.
Et dans là-bas aussi ça se voyait.
L'artisan,
il n'a même pas touché, pas, l'artisan il le sait. Il ne le touche pas. Il ne le touche pas. Il ne touche pas la cruche, dont il craint qu'elle soit fêlée.
Et la question se pose.
Pour l'extérieur, ça ne se voit pas, c'est ça que je voulais dire la différence. C'est que pour le voilà, c'est ça
bon.
Que je
veux
dire. Ça ne se voit pas de l'extérieur. Ça ne se voit que pour lui, que pour l'artisan qui ne sait pas. Mais parce que lui, il le sait. Mais de l'extérieur, ça ne se voit pas. Alors que pour les vaches, il y a une vache qui est faible et une autre qui est costaud, ça se voit.
Oui, mais alors
ben, peut-être que ça apporte des choses par rapport à la différence.
Non, mais c'est. Oui. Je pense que c'est juste cette histoire du travail qui est produit en dehors de ce qu'il est. Voilà, la cruche, elle est ce qu'elle est. La vache, elle est faite pour donner du lait, pour de la viande, etc. Et aussi pour un travail qui est quasiment en dehors d'elle. Quoi, en dehors de, c'est un travail qui elle va permettre. Le joug lui-même, ça n'a aucun intérêt. Le joug n'a de sens que si on l'utilise pour tirer une charrue ou pour tirer une charrette, etc. Sinon, le joug, la vache, elle peut se promener toute la journée avec le joug, ça n'apportera rien.
Je crois qu'on peut dire que dans les trois cas, l'artisan sait à quoi s'en tenir.
Oui, ça on sait.
Et alors, s'il fait un test, une épreuve, c'est pas pour lui. Puisqu'il le sait déjà. Alors, quel est le choix? Pour qui il fait ce...
Mais c'est pour lui, on l'a dit, il se fait plaisir. On peut le dire. Et puis
mais
ensuite.
En réalité, ce n'est pas la réponse, puisque les deux cas sont différents. Donc.
Quel cas? C'est ça le cas, il se fait plaisir. Dans le deuxième cas, c'est autre chose. Dans le deuxième cas du lin, il bonifie le lin, en le frappant. Il prend ce qui est déjà bon pour en faire du très bon. Et là, dans le troisième, un instant. Dans le troisième, avec la vache, il utilise la vache pour lui faire un travail qui est en dehors d'elle, en quelque sorte. Donc, ces trois formes d'épreuves, si vous voulez, une des épreuves ne nous donne qu'une information sur ce qu'elle est, sur ce que la chose est. La deuxième nous donne. Nous permet, on a une information et ça permet d'améliorer, et là j'ai une information, ça permet de faire quelque chose encore en dehors de soi-même, qui améliore pas la vache, mais qui améliore le travail en général, la notion de travail en général. Ça, c'est trois fonctions de l'épreuve. Et après avoir fait ce tour des trois fonctions possibles d'une épreuve, on parle maintenant de l'épreuve de Noach. Et l'épreuve de Noach, c'est effectivement de ne pas être sorti de la Teva, d'avoir prié jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre de sortir. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le Midrash ici veut dire qu'il y a d'une certaine manière, de toutes ces trois épreuves-là, dans l'épreuve de la sortie de la Teva, ou est-ce qu'on veut nous dire que c'est encore une autre chose, ou bien c'est un des cas? Quelle est l'épreuve si je considère ces trois catégories d'épreuves, bon, celle du potier, du linier et du paysan, d'accord, est-ce que je peux mettre l'épreuve de Noir dans une ou dans toutes ou dans aucune de ces catégories? Oui, non, je suis d'accord. Hein.
Donc,
et la vache
animale et ensuite l'homme. Donc, il y a une.
Nous sommes d'accord. Mais maintenant, justement, est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que tu vas dire qu'on voit l'homme comme étant.
Supérieur par rapport à celle-là.
Simplement, mais est-ce qu'il inclut. Est-ce que l'épreuve de l'homme, en l'occurrence, ici, est-ce qu'elle inclut? Est-ce que le Midrash veut me faire toucher du doigt? En passant, ce que c'est qu'une tfila, par exemple, éventuellement, est-ce que c'est qu'un ordre d'Hachem? Est-ce que c'est que l'expérience de la prison, en fait, l'expérience vécue par Noir de ce sauvetage qu'en réalité il vit comme une prison? Essayons. Peut-être pas suffisant, il faut le faire. Ok, do it.
Oui, c'est un chemin après le fait de sortir, même pour un prisonnier qui a resté un certain temps en prison, le fait de se retrouver à l'air libre, c'est une épreuve, une expérience.
Où est l'épreuve de type potier? Où est l'épreuve de type lin? Et où est l'épreuve du type joug? Si c'est ça, alors il faut qu'on le dise, qu'on le voit. Il y a d'abord le fait qu'il a pris ça pour une prison. Nous, ça nous a surpris. Bon, nous, on n'a pas vu là. On a vu. Est-ce que quelqu'un qui est sauvé d'un naufrage parce qu'on lui a trouvé un canot de sauvetage, il va considérer que c'est une prison? Est-ce que le canot de sauvetage, c'est une prison? C'est vrai que ça peut être très difficile. On peut imaginer le radeau de la Méduse, mais. Ou les révoltés de. C'est vrai que c'est possible. Ça devient insupportable. C'est vrai que Noach, là-bas, il était à dure épreuve. Il s'est fait griffer par le lion parce qu'il avait du retard, etc. Donc c'était pas facile. Il ne chômait pas, Noach, dans la Teva. Mais on peut considérer que ce qui me libère, en réalité, je suis capable de le vivre comme une prison. C'est ma libération, c'est le sauvetage, mais comme s'il y avait un prix à payer. C'est de se retrouver en prison. Alors ça, tu penses, est-ce que c'est le là? Disons, ouais. Thierry, vous vouliez dire? Oui, oui, mais je veux bien qu'on fasse ça après. Je voudrais qu'on travaille sur ces points-là. Alors, si c'est vrai, quel est l'aspect joug? Oui, mais la prison, c'est pas tout. C'est qu'il ne l'a pas eu encore l'ordre. Il a décidé qu'il ne sortirait pas sans ordre.
Mais il n'a pas désespéré. Il a cherché.
Non, il n'y a pas de désespoir.
Il aurait pu désespérer.
Oui, oui, il y a plein de choses qu'il aurait pu faire. Mais maintenant, regardons ce qu'il a fait. Il se tourne vers Hachem et il prie. Et il dit, sors-moi de cette prison. Là, tu dis le lin, c'est la période prison, d'avoir vécu ce sauvetage comme une prison. Là, tu dis que le fait d'attendre, de ne pas sortir avant d'en avoir l'ordre, ce serait accepter le joug de. Oui. Oui, comme oui. Alors il y a il nous reste le potier. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la prière là? Dans le potier, le potier il met à l'épreuve quoi. Il met à l'épreuve ce qu'il aime bien. Et ça n'a pas de fonction, il y a une mise à l'épreuve. Pardon, le lui, il n'est pas le potier. Hein.
La prière, c'est le tzaddik qui est capable de faire une prière. Et surtout une prière qui est entendue.
Oui, mais on cherche maintenant comment ça fonctionne ici. Oui, mais si vous faites comme si vous dites comme ça, alors vous êtes obligé d'utiliser le korban déjà. C'est pas seulement aussi où il demande à Hachem, sors-moi de cette prison. Je vais faire quelque chose après, mais c'est peut-être les tzadikim qui vont. Le reste, la fin du verset. Couronné, etc. C'est moi-même, mais quand je serai sorti, je me couronnerai.
Mais il prend tout le monde en charge, là, quand même, à la sortie.
Alors ?
C'est comme un juge, je veux dire, il prend en charge plus que lui-même. Il accepte de prendre femme, les enfants, les animaux, il prend tout en charge.
C'est ça, oui, c'est très bien. Donc la sortie elle-même deviendrait, d'après vous, le joug.
C'est sorti avec, voilà.
Avec tout le monde, c'est ça le joug. Et à ce moment-là, et la tfila, c'est la bonification. Il se bonifie parce qu'il a compris que c'est en priant qu'il faut se tourner vers Hachem, quelque part. Et à ce moment-là, le potier, c'est quoi? C'est être dans la teva. Mais justement, c'est justement cette bonification qui consiste à comprendre que c'est pas moi. Maintenant, lui, de son point de vue, il peut sortir. Il a vérifié que c'est bon. Et donc, la bonification, en quelque sorte, qu'il y a là, c'est que maintenant, il a compris que même quand je vois que je peux sortir, il faut néanmoins demander à Hachem de me faire sortir. D'abord, il obéit, il fait un
coup. Oui, il obéit, mais ensuite vous avez dit qu'il sort avec.
Oui.
Il y a une contradiction quand même. Enfin, alors est-ce que ça veut dire que dès que la fila est terminée, il repasse à la vie courante et il recommence à faire.
Non, mais la fila était. Je ne peux pas décider par moi-même. Et puis là, la question qui va se poser effectivement sur le. Cette sortie non mixte, alors qu'Hachem avait donné l'ordre d'une sortie mixte, peut-être que, il faudra qu'on voit, hein, comment le Midrash le voit, le considère, mais on peut penser que, il a souvent pensé, tu sors de la teva, tu sors de la prison, mais les conditions sont encore toujours les mêmes. Simplement, tu n'es plus dans la prison, mais on est encore dans l'esprit de la prison. Il n'a pas compris qu'il y avait dans l'ordre d'Hachem, quand Hachem lui dit toi, et qu'il a modifié l'ordre, il n'a pas compris qu'il fallait être attentif à la modification de l'ordre. C'est-à-dire au fait que ce n'est pas comme ce qu'il lui a dit quand il lui a dit d'entrer dans la Teva. Là, il lui a dit, bon, maintenant, vous entrez et vous vous séparez. Il aurait dû être attentif, c'est-à-dire qu'il a manqué quand même cette attention-là. Il lui manque l'attention de « Ah, mais Hachem ne me parle pas de la même manière qu'il m'avait parlé quand je suis entré dans la Teva. » Et donc ce changement-là, il aurait dû le considérer comme significatif. Il aurait dû comprendre que ça voulait dire que maintenant il fallait s'occuper de Périr Béribien. Alors il s'est occupé de choses... C'est intéressant. Il aurait dû s'occuper de Périr Béribien. Et de quoi il s'occupe? Donc en réalité, au lieu de s'occuper de remplir la terre, il s'occupe de remercier Hachem. Donc là, l'ordre n'est pas le bon ordre. Il faut d'abord obéir à Hachem. Et après, tu le remercies. Et justement, c'est ça l'histoire. C'est si tu veux prier quand c'est pas le moment, parce que il y a encore de l'eau, Bon, là, c'est, qu'est-ce que tu demandes? Qu'Hachem change le monde? Cette dimension, je ne ferai, j'accepte le, d'une certaine manière aussi déjà le commencement du joug. J'accepte effectivement de ne rien faire sans en référer à Hachem. Ça n'a de sens quand je pourrais le faire. Je pourrais sortir. Tant que tu ne peux pas sortir, la question ne se pose pas. À ce moment-là, il est bien obligé de prier, puisqu'il faut, à ce moment-là, il prie pour qu'Hachem évacue l'eau. La prière, elle prend un autre sens quand il n'y a plus d'eau. Elle prend son sens complet seulement quand il n'y a plus d'eau. À ce moment-là, on sait bien que la raison pour laquelle il prie, ce n'est pas Hachem enlève l'eau, mais permets-moi de sortir. Oui, et permets-moi de sortir. Plutôt que par
l'initiative.
Ben vous voyez, justement, il prend l'initiative de prier. Son initiative, c'est... Voilà, d'abord, il a pris l'initiative de vérifier où on en était. Quand il a vu qu'effectivement, il n'y avait plus d'eau, il a dit, bon, voilà, je pourrais sortir. Et maintenant, il décide de ne pas sortir sans l'ordre d'Hachem. C'est une initiative. C'est pas qu'il se plie à l'ordre d'Hachem. Il invente de se plier, si vous voulez. Il y a un ordre d'Hachem auquel il obéit. Il n'y a pas d'ordre d'Hachem. Hachem ne lui a pas dit, tu sortiras pas tant que je ne t'ai pas dit de sortir.
Non.
C'est lui qui l'invente, cette...
C'est qu'il a appris dans son expérience vécue...
Mais où il a appris ça?
Lorsqu'on lui a dit, fais là, fais cette arche, entre dedans.
Là, on voit
ça,
qu'il ne l'a pas fait.
Non,
mais ça, c'était normal. Mais ce problème-là, il était. Comme c'est marqué qu'en fait, il n'est pas rentré noir. Il est rentré mipnei me'amaboul. Rachidi, il fait partie des Ktané Amana. Rachidi, qu'il était faible en Emouna. Pourquoi? Parce que Shem lui a dit, va, entre dans la Teva, je vais envoyer le déluge. Il n'est pas entré, il a attendu que ça commence vraiment sérieusement à pleuvoir. C'est marqué, il est entré, mipne me amaboul. Il est entré parce qu'il recevait des trompes d'eau. Alors Rachidi était petit en Emouna. J'ai l'impression que cette épreuve-là, il l'a réussi. Alors maintenant, le problème, c'est qu'en même temps, il y a un ordre d'Hachem qui est de la mixité, et celle-là, il est en train de ne pas la réussir. Mais le Midrash, il a l'air de séparer les parchiotes. On va traiter ça après. On aurait pu tout de suite nous dire, mais il y a un problème, là, ici. Il n'a pas fait ce qu'on lui a dit. Mais le Midrash, il traite d'abord.
C'était l'attente sans s'avolter. La réussite de l'épreuve, c'est ça?
Non, je crois que c'est d'avoir compris qu'en fait, l'homme devait faire tout ce qu'il a à faire et ensuite se tourner vers Hachem pour voir si c'est... Si on veut, c'est... une des caractéristiques de Noach, c'est marqué au début du Psukim, c'est marqué... que va Israël, Esa Elohim Israël Noach. Noach marche avec Elohim. Par opposition à Abraham Avinu qui marche l'ifné à Elohim. Donc Abraham Avinu, il invente. Il invente et il vérifie qu'il est toujours l'ifné à Hachem. De Noach, on voit qu'il n'invente pas. Il marche, on a l'impression, Hachem lui donne la main, il marche. Mais il ne peut pas marcher tout seul. Il ne peut pas marcher devant et regarder. Donc il n'invente pas de chemin. Là, j'ai l'impression qu'il l'a inventé. Là, il a inventé qu'il fallait faire le travail et puis vérifier qu'on est toujours avec Hachem en demandant à Hachem de la possibilité de sortir. Ça, il a compris que je fais le travail pour savoir ce qu'il aurait très bien pu dire. Ben, j'attends qu'Hachem me dise de sortir. sans envoyer colombes, corbeaux, etc. Puisque de toute manière, tu attends l'ordre d'Hachem. Donc, qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas une question d'impatience. C'est pas pour avoir de l'information. Mais justement, il a fait sa part des choses. Donc, il a inventé un chemin. Voilà, maintenant, on pourrait sortir. Mais je vérifie que je suis bien l'Ifnei Hachem. Est-ce que Hachem est d'accord que je sorte maintenant? Comme c'est vraiment un tournant majeur, il est en train d'entrer dans un nouveau monde. Parce que dans ce nouveau monde, Hachem est d'accord que j'entre. Si vous voulez, c'est presque comme si on fait référence ici à la... Chazal dit qu'une des clés qu'Hachem n'a pas donné aux hommes dans le monde, c'est l'ouverture de la matrice. Donc c'est la naissance. Or, c'est une naissance pour lui. Il naît au nouveau monde. Il entre dans un nouveau monde. Bon, la période de la période de... Oui, c'est la crise. Le séjour dans l'arche, c'est la crise. La crise, c'est toujours ce temps qui entre, quand on passe d'un monde à un autre, ça s'appelle la crise. Passer de cet ancien monde antédiluvien au monde, au monde d'avant le déluge, oui, et maintenant dans ce monde d'après le déluge, le passage de l'un à l'autre, c'est un passage de crise. Ça dure. Ouais, je trouve que ça passe.
Là, ça a duré quand même.
Ah oui, mais c'est à l'échelle du monde. À l'échelle de la création. Attends. Oui, il y a des gens qui ne naissent jamais. Si on considère que la tfila, que la bracha qu'on fait le matin, où on demande à Hachem, les hommes demandent chez l'Oa Sani Isha, on demande à Hachem de nous aider à nous arracher à la condition féminine, c'est un travail de toute une vie. Et la naissance, c'est couper les deux cordons ombilicaux pour nous. Le physique et le fait de ne plus avoir, pas avoir le même sexe que sa mère. On n'a pas le même sexe que sa mère. Donc on est le... Parce qu'il se trouve que, curieusement, les hommes ne naissent pas des hommes et les femmes des femmes, mais tout le monde est des femmes.
Il a le pouvoir seulement de...
Pourquoi tu dis qu'il ne l'a pas?
Parce qu'il a le... Il peut prier, mais
il aurait pu ouvrir la porte, non? D'où il le sait,
ben,
c'est ça l'histoire. À un moment donné, c'est lui qui se le dit.
Le
j'ai l'impression que c'est lui qui décide de se le dire.
Oui, il peut-être grâce à l'expérience qu'il a eue dans l'arche et les fissures, c'est peut-être ça qui lui permet de.
Mais je pense que c'était quelque chose que je croyais que Thierry était en train de dire, c'est que l'expérience prison lui a donné à comprendre qu'il ne pouvait pas sortir. Quand tu es dans un canot de sauvetage, dès que tu arrives en vue du rivage, tu sautes. Tu sors. Puisqu'il a compris, je suis en prison, alors qu'il était dans un canot de sauvetage. Non, mais attends, avant cela. Donc c'est d'avoir compris que finalement je suis dans une prison, par conséquent, je ne peux pas sortir. Le propre de celui qui est en prison, c'est de ne pas pouvoir sortir par lui-même. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'évadent, mais a priori, d'une prison, on ne sort pas par soi-même. Et donc, du coup, il comprend que... Donc, si on veut, il y a un travail qui se fait. D'avoir compris qu'il était en prison alors qu'il est... Encore une fois, je répète, alors qu'il est dans un canot de sauvetage, il pense... Voilà, c'est une prison. Donc, il prend conscience. Bon, alors, je ne peux pas sortir tout seul. C'est le commencement de la leçon, en quelque sorte. Bien, on va s'arrêter là, je crois, parce que débordé. Ça fait un ruine, d'ailleurs. Je rappelle à tout le monde que le prochain Malta, ce n'est pas ce Shabbat, c'est le Shabbat d'après. Parshat Lech Lecha.